Bonjour, je suis Olivier. Bienvenue dans le podcast de 993. Aujourd'hui, je vais résumer et critiquer le livre. L'ordre du discours est le texte de la leçon inaugurale prononcée par Michel Foucault au Collège de France le 2 décembre 1970, lors de son entrée dans la chaire d'histoire des systèmes de pensée. Publié par Gallimard, cet essai bref ne présente pas une théorie générale du langage au sens strict. Il examine plutôt les conditions sociales, institutionnelles et intellectuelles qui déterminent ce qui peut être dit, par qui, dans quel lieu et avec quels effets de vérité. Foucault part d'une hypothèse directrice: aucune société ne laisse circuler les discours sans règles, sélection ni contrôle. La parole est désirée parce qu'elle agit, mais elle est aussi redoutée parce qu'elle peut déranger des hiérarchies et produire des événements imprévus. Le livre cartographie donc des mécanismes d'exclusion, d'organisation interne et de restriction de l'accès à la parole. Il annonce avec une densité remarquable les recherches foucaldiennes sur savoir, pouvoir, institutions et pratiques de subjectivation. Je vais vous présenter les points clés de ce livre. Premièrement, la production du discours comme enjeu de pouvoir social, Foucault refuse de considérer le discours comme un simple véhicule neutre d'idées déjà formées. Produire un énoncé, le faire reconnaître, le transmettre ou l'archiver engage des institutions, des règles et des rapports de force. Son hypothèse est que les sociétés contrôle la production des discours afin d'en conjurer les pouvoirs et les dangers, d'en maîtriser l'événement aléatoire et d'en sélectionner les formes légitimes. Cette perspective déplace l'analyse: au lieu de demander seulement ce qu'un texte signifie, il faut examiner les conditions qui le rendent possible et recevable. Une proposition peut être pertinente dans un espace et disqualifiée dans un autre, non seulement pour son contenu, mais parce que son locuteur, sa forme ou son cadre ne répondent pas aux exigences de cet espace. La vérité elle-même ne circule donc pas indépendamment de procédures qui distinguent les paroles autorisées des paroles marginalisées. Foucault ne soutient pas que tout énoncé se vaut. Il montre que les critères de validation, les lieux de compétence et les modes de reconnaissance ont une histoire. L'intérêt durable du texte tient à cette articulation entre langage et pratique sociale, parler haine et jamais uniquement s'exprimer. C'est intervenir dans un ordre où les positions de parole sont inégalement distribuées. Deuxièmement, les exclusions externes, interdits, folie et volonté de vérité. La première famille de mécanismes étudiés est celle des exclusions externes, qui agissent depuis les frontières du discours. Foucault distingue notamment l'interdit, le partage entre raison et folie, et l'opposition du vrai et du faux. L'interdit règle ce dont il est possible de parler, les circonstances où une parole peut être tenue et les personnes habilitées à la tenir. La sexualité et la politique fournissent des exemples généraux de domaines où la parole est souvent fortement encadrée. Le partage raison-folie renvoie à l'histoire par laquelle certaines paroles sont écartées ou privées d'autorité en raison du statut attribué à celui qui les énonce. Il ne s'agit pas d'effacer la réalité de la maladie mentale, mais d'interroger les institutions et les pratiques qui transforment une parole en parole irrecevable. Enfin, l'opposition vrai-faux paraît plus familière, mais Foucault insiste sur la volonté de vérité qui la soutient. Les procédures de preuve. Les disciplines savantes et les institutions d'enseignement ne définissent pas seulement des contenus vrais, elles organisent aussi la valeur sociale du vrai. Ainsi, la vérité opère comme un principe de sélection particulièrement puissant. Souvent moins visible que la censure explicite parce qu'elle se présente comme évidence rationnelle. Troisièmement, les procédures internes commentaires, auteurs et disciplines. Foucault analyse ensuite des procédures internes au discours. Celle-ci ne l'exclut pas directement de l'extérieur, mais limite sa prolifération en organisant la manière dont il peut se développer. Le commentaire permet à certains textes de demeurer actifs à travers les interprétations qui les reprennent. Il semble multiplier les énoncés, mais il impose souvent que le nouveau discours reconduise ce qui est supposé déjà présent dans le texte commenté. La fonction auteur joue un rôle voisin, elle rassemble des textes sous un nom, attribue une responsabilité, classe des œuvres et crée une unité interprétative. L'auteur N est donc pas seulement une personne réelle, il constitue un principe qui ordonne et restreint les significations possibles. Les disciplines, enfin, définissent les règles selon lesquelles un énoncé peut être admis comme recevable dans un domaine de savoir. Elles fixent des méthodes, des objets, un vocabulaire et des critères de vérification. Une idée ne devient pas scientifique parce qu'elle est simplement plausible, elle doit satisfaire aux normes historiques d'une discipline. Cette analyse évite deux simplifications. Elle ne réduit pas les savoirs à une pure domination, et elle ne les imagine pas non plus comme affranchis de toute règle. Elle met en lumière le travail concret de cadrage qui rend possible une production de connaissances ordonnées et contrôlées. Quatrièmement, l'accès inégal à la parole rituelle. Doctrine et appropriation sociale, au-delà de la sélection des énoncés, l'ordre du discours s'intéresse aux procédures qui règlent l'accès des sujets à la parole. Le rituel détermine les qualifications du locuteur, les gestes, les circonstances et les formules qui confèrent une efficacité particulière à certains énoncés. Dans un tribunal, une salle de cour ou une cérémonie, la parole ne produit pas les mêmes effets selon la position reconnue de celui qui parle. Foucault évoque aussi les sociétés de discours qui conservent ou font circuler certains savoirs dans des groupes restreints, ainsi que les doctrines. Une doctrine lie les individus à un ensemble d'énoncés et, en retour, soumet les énoncés à l'identité de ceux qui les professent. Elle crée de l'appartenance tout en traçant une frontière avec ceux qui n'y adhèrent pas. L'appropriation sociale des discours complète ce tableau. L'éducation, notamment. N est pas seulement transmission de connaissances, elle distribue les conditions d'accès aux discours reconnus et aux positions qui permettent de les employer. Cette dimension donne au texte une portée politique précise. Les inégalités ne concernent pas uniquement les ressources matérielles. Elles touchent aussi la capacité de parler avec autorité, de maîtriser des codes et d'être entendu dans les institutions qui comptent. En dernier lieu, une méthode d'analyse qui remplace l'origine par les pratiques. Dans le mouvement final de sa leçon, Foucault esquisse une orientation méthodologique. Il invite à ne pas chercher derrière les discours une origine souveraine, une signification cachée ou un sujet créateur qui en garantirait l'unité. Il privilégie l'étude de leur apparition, de leur discontinuité, de leur dépendance à des règles et de leurs conditions matérielles d'existence. Cette approche oppose à l'idée qu'une œuvre ou une science se déploierait naturellement à partir d'une essence stable. Les discours sont des événements, ils surgissent dans des situations déterminées, rencontrent des résistances, sont repris, transformés ou oubliés. Les analyser exige donc de décrire des pratiques plutôt que de ramener immédiatement les énoncés à l'intention d'un individu. Foucault formule aussi des principes de renversement, de discontinuité, de spécificité et d'extériorité. Ils conduisent à repérer les mécanismes de rareté là où l'on imagine une abondance de sens, à ne pas présupposer une continuité harmonieuse de l'histoire des idées, et à étudier les règles effectives de circulation des discours. Cette méthode annonce l'importance de la généalogie et de l'archéologie dans son travail. Elle fournit un outil critique pour étudier archives, institutions savantes et formes ordinaires d'autorité discursive. En conclusion, l'ordre du discours s'adresse en priorité aux lecteurs de philosophie contemporaine, aux étudiants en sciences humaines et sociales, ainsi qu'à toute personne qui veut comprendre pourquoi la liberté de parole ne se réduit pas à la possibilité abstraite de s'exprimer. Sa brièveté peut en faire une porte d'entrée accessible à Foucault, mais sa construction serrée demande une lecture lente les notions de vérité, d'auteur, de discipline et d'institution y sont étroitement liées. Le bénéfice intellectuel essentiel consiste à apprendre à poser d'autres questions devant un texte, une expertise ou une prise de parole publique. Qui est autorisé à parler? Selon quelles règles un énoncé est-il reconnu comme sérieux, vrai ou scientifique? Quels dispositifs rendent d'autres paroles invisibles ou inaudibles? Le livre ne fournit pas une méthode mécanique pour répondre à ces questions, mais il donne une grille d'attention durable. Par rapport à beaucoup d'essais sur la communication ou la rhétorique, il se distingue par son objet, il ne cherche pas d'abord à améliorer l'efficacité d'un discours, ni à interpréter seulement son contenu. Il examine les institutions et les pratiques qui fabriquent les conditions même de son autorité. Issu d'une leçon inaugurale, le texte associe une forme très condensée à une ambition théorique considérable. Cette alliance explique sa place particulière dans l'œuvre de Foucault et dans les débats sur les rapports entre savoir, pouvoir et parole. Si vous souhaitez soutenir Michel Foucault, vous pouvez acheter le livre via le lien Amazon que j'ai fourni dans la description du podcast. Après avoir lu le livre, faites-moi savoir ce que vous en pensez et partagez vos réflexions. À bientôt.